Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'occasion de cette journée spéciale pour le livre, France Culture vous donne à entendre les voix des libraires et des auteurs qui viennent partager leur passion à notre antenne. Alors ça tombe bien parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la vérité, ou plutôt de la post-vérité. Cette expression beaucoup employée mais rarement définie et qui semble finalement n'avoir pas grand-chose à voir avec l'idée que l'on se fait de la vérité. Mais au fait, à quoi sert la vérité dans un monde où existent des faits alternatifs et des fausses nouvelles, des alternative facts, des fake news, puisqu'il paraît moins douloureux quand on parle la vérité de le dire en anglais. S'il n'y a plus de vérité, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus que des opinions, des interprétations? Allez, en route sur les chemins de la philosophie.
This was the largest audience to ever witness an inauguration period, both in person and around the globe. Even the New York Times printed a photograph showing that a misrepresentation of the crowd in their original tweet, in their paper, which showed the full extent of the support, depth, and crowd and intensity that existed.
Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office
on
day one.
Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts.
Aujourd'hui je sais que rien n'est jamais ni tout noir ni tout bleu. Tu vois, je te dis ce que j'ai appris dans le fond de tes yeux. Tu es mon mensonge et ma vérité, ma vérité.
Bonjour Dorian Astor.
Bonjour Adèle.
Alors je ne peux pas voir votre visage parce que vous êtes avec nous depuis Berlin en duplex, donc je ne sais pas comment vous avez accueilli ni la phrase de Kelly Conway, ni la chanson de Claude François venant illustrer de manière assez inattendue ces propos. C'est le sujet de l'émission, hein, entre vérité et mensonge, comment est-ce qu'on fait la part entre les deux. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Vous êtes philosophe et germaniste, spécialiste de Nietzsche auquel vous avez consacré un ouvrage, hein, Nietzsche, la détresse du présent, paru chez Gallimard, et puis récemment un dictionnaire Nietzsche, qui est toujours disponible et dont vous étiez venu parler aussi à ce micro. Alors la phrase de Kelly Conway évoquant l'existence de faits alternatifs pour justifier les propos du porte-parole de Donald Trump, Sean Spicer, qui soutient que, contrairement à ce que montrent les photos officielles, il n'y a jamais eu autant de monde à une cérémonie d'investiture présidentielle qu'à celle de Donald Trump, a non seulement inventé l'expression de faits alternatifs, mais elle a relancé les expressions de fake news, de post-vérité et d'autres expressions barbares ainsi forgées. Certains y ont vu l'occasion de philosopher. Après tout, la phrase de Nietzsche « il n'y a pas de fait mais seulement des interprétations » qu'on trouve dans ses fragments posthumes semble sinon donner raison à Kelly Conway, du moins éclairer la référence à des faits alternatifs. Or, vous dites, Dorian Astor, qu'il n'en est rien. Et c'est même le procédé qui consiste à éclairer la présidence de Donald Trump grâce aux écrits de Nietzsche qui vous paraît hautement contestable.
Oui, vous me demandiez quelle tête j'avais faite en entendant la voix de Conway. Un grand sourire, parce que au fond, ce serait simplement ridicule et infantile si il n'y avait pas en jeu de telle violence de pouvoir en réalité. On y reviendra à cette question du pouvoir. Alors, avant de vous dire ce que je pense, tout le mal que je pense de cette convocation très à la mode en ce moment, des philosophes pour éclairer les inepties de ce que les politiques nous racontent, je voudrais dire que il ne s'est en réalité pas passé grand-chose d'un point de vue conceptuel. Je pense que Conway a simplement utiliser une expression fausse par rapport à ce qu'elle voulait dire, parce que je pense qu'il y a aussi des problèmes de culture, hein, des problèmes de compétences, etc. On entend bien Trump. Au fond, ce qui s'est passé sur ces histoires de nombre de personnes présentes à l'investiture, à chaque manifestation, on a toujours le nombre des manifestants suivant les organisateurs, le nombre des manifestants suivant la police. Bon. La police étant au milieu, puisque quelquefois les politiques ont intérêt à diminuer le chiffre, les organisateurs intérêt à les augmenter, etc. Bon, tout le monde fait ça. Et ensuite, il y a des gens qui occupent une position tierce pour essayer de compter, de dire, bon, de fait, il y en avait combien. Bon, ce que fait Conway, c'est que ce qu'avait fait Spicer, c'était d'exagérer le nombre. Bon. Ce que font légendairement les Marseillais, ou comme on dit, hein, c'était juste l'expression, hein, exagérer, c'est-à-dire, oui, il y avait énormément de monde, c'est-à-dire, on exagère, ce qui est un effet rhétorique. Quand on exagère par un effet rhétorique, on n'y croit pas vraiment. Bon. Et puis, il y a évidemment des effets de manche, il faut convaincre, etc. Et puis tout d'un coup, alors que le journaliste lui dit non, mais c'est bien prouvé qu'il y avait un tel nombre de personnes et pas ce que vous dites. Et là, au lieu de dire que Spicer a donné sa version
donc
des
le
faits,
porte-parole de Donald Trump,
voilà,
Sean Spicer,
le porte-parole, ouais. Voilà, que venait défendre, sauver, j'allais dire, Conway, qui était quand même aux premières lignes pendant des heures et des heures à... moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'elle faisait. Elle était capable vraiment de ne rien dire et de mentir, etc. Et surtout de demander à chaque fois la paix aux journalistes en disant non, mais soyez pas trop durs avec nous quand même. Voilà, nous avons donné des faits alternatifs. Et là, au fond, alors je ne sais pas comment c'est perçu en anglais, le alternative facts, mais en français ou dans une telle situation, on aurait peut-être dû dire. Oui, mais là, Spicer vous donne sa version des faits.
C'est ça.
Dans ce cas, il aurait dit, mais c'est les informations que nous avons eues, ou alors, en voyant les images aériennes, c'est ce qu'on pouvait à peu près estimer, etc. Et là, il y a eu, au fond, un décroché où, au lieu de parler d'une version des faits, ou, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, une interprétation des faits, elle a décidé, ou elle a formulé, sans vraiment le décider, je pense pas qu'elle soit métaphysicienne, hein, elle a formulé qu'il y avait des faits, mais qui étaient alternatifs. C'est que, au fond, il s'est passé quelque chose, mais il aurait pu se passer quelque chose.
La différence est énorme, hein, entre sa version des faits et des faits alternatifs. Dans un cas, c'est la possibilité d'une interprétation, d'un point de vue, d'une opinion même, pourquoi pas. Dans l'autre, on présuppose l'existence de faits qui nous dépassent, qui ne dépendent pas d'une interprétation, mais qui sont bien réels.
Voilà. Donc, se décrocher, au fond, est essentiellement politique et non pas, dirais-je, conceptuel. C'est pour ça que, bon, on peut toujours y articuler la philosophie, mais ce qui me paraît absolument essentiel, c'est qu'à un moment donné, le passage d'une version des faits qui suppose un pluralisme, y compris des opinions, des interprétations, des forces qui s'expriment dans le champ politique. Tout d'un coup, la version des faits est transformée en fait alternatif, ce qui est le point de départ d'une coercition absolument totalitaire. Dans l'espace public et dans la politique. C'est-à-dire que si on les avait écoutés, si nous écoutions, dans ce cas, mais ils ne sont pas les seuls, dans ce cas, si nous écoutions les procédés de l'administration Trump, et si nous laissions faire, j'allais dire, parce que là, il y a le rôle des médias, il y a le rôle de l'opinion, on en parlait, eh bien, on serait effectivement dans une situation orwellienne où il n'y aurait pas d'extériorité. Au fond, même le terme alternatif n'est pas juste. C'est plus, elle aurait dû dire, il y a des faits substitutifs. C'est-à-dire que nous substituons des faits à d'autres et nous déclarons que ce sont aussi des faits, alors que ce sont des mensonges. Bon, au mieux, des erreurs, mais en tout cas, là, ce sont des mensonges, c'est parfaitement conscient. Donc, il y a un glissement de langage qui vise à nous faire croire que au fond, nous vivons dans deux mondes parallèles. Il y a le monde des médias, de ce que nous voyons à la télé, de ce que nous voyons à Washington, si nous sommes dans la rue au moment de l'investiture. Et puis, il y a une espèce de monde parallèle qui est le monde des tout-puissants et qui décrète il n'y a jamais eu autant de monde qu'à cette investiture, point.
Et qui vont jusqu'à décréter, oui, period, dit Sean Spicer, hein, c'est oui. Point final. Voilà, c'est même pas ouvert à la discussion.
Exactement.
Mais cet autre monde... que vous décrivez, celui, le monde alternatif, où vivent Kellyanne Conway, Sean Spicer et Donald Trump, est aussi le monde où il se serait arrêté de pleuvoir au moment où Donald Trump a pris la parole. C'est une des autres versions de ces faits alternatifs évoqués par cette présidence. C'est-à-dire que c'est pas simplement, là, pour le coup, un point de vue de numérique, de comptage de personnes présentes, c'est aussi, moi, dans mon monde, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous interprétez, si j'ose dire, de votre point de vue, c'est le fait de brandir l'existence de faits alternatifs comme étant l'expression, presque même la trahison ou l'aveu d'une autre réalité à laquelle ces personnes-là pensent appartenir. C'est qu'en fait, ils s'excluent du monde. C'est pas simplement qu'ils pensent qu'il y a un autre monde qui existe, c'est qu'eux-mêmes ne s'incluent pas dans le même monde que nous, ce qui en dit long politiquement.
Alors, oui, ça, ce serait une façon de dire les choses. Je serais plus méfiant encore. C'est-à-dire que je crois que on parle souvent du fait que les élites, les puissants, etc., sont déconnectés du monde. Mais en réalité, pas du tout. Ce qui s'exprime là, ça n'est pas cet espace qui serait le leur et qui est hors de toute chose. C'est la certitude, ou en tout cas la tentative, d'imposer leur pouvoir absolu, c'est-à-dire un pouvoir brut. C'est-à-dire que, parce qu'il faut voir une chose, c'est que quand même, je crois savoir que soit dans la Constitution américaine, soit en tout cas dans le système juridique américain, les politiques peuvent être poursuivis lorsqu'ils mentent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé devant les médias, si ça s'était passé dans un tribunal, ça aurait été un parjure. Mm-hmm. Bon. C'est-à-dire que il faut voir dans quel contexte un représentant politique ou le conseiller d'un représentant politique s'autorise un mensonge dont il sait qu'il sera impuni. C'est-à-dire, ce qui me frappe le plus dans ces histoires de faits alternatifs, de post-vérité, de fake news, etc., c'est juste la certitude de l'impunité.
Ce que vous dites, Dorian Astor, et c'est ce que vous écrivez dans un excellent article qu'on trouve dans la revue Diacritique en ligne, où vous revenez sur ces questions des rapprochements effectués entre Conway d'un côté et Nietzsche de l'autre, c'est qu'au fond, lorsque Kellyanne Conway dit « alternative facts », elle pourrait aussi bien dire « shut up, taisez-vous », c'est exactement la même chose. C'est dire à quel point finalement cette expression est plus un acte de pouvoir qu'une locution sémantique.
Oui, et d'ailleurs, il faut préciser que les personnes impliquées dans cette histoire des alternative facts, ce sont Kellyanne Conway qui est conseillère, c'est Spicer qui est porte-parole, ça n'est pas Trump, parce que Trump, on l'a vu déjà dire... je ne sais pas s'il a... pas « shut up », mais « sit down », un journaliste. C'est-à-dire qu'il a refusé un certain nombre de fois de répondre aux questions des journalistes. Donc, au fond, il y a les deux faces d'une même pratique tyrannique. C'est-à-dire, soit, quoi que je dise, de toute façon, vous allez devoir l'avaler parce que je suis en position de pouvoir, ou bien, taisez-vous. Voilà. Et au fond, je ne sais pas d'où vient cet exprimement, quand on dit au fond la démocratie, la tyrannie c'est ta gueule et la démocratie c'est cause toujours, on voit exactement que l'administration Trump, encore une fois ils ne sont pas les seuls, joue sur les deux faces du cause toujours et du ta gueule.
C'est bien que le véritable scandale n'est pas tellement dans le fait de transformer la réalité, enfin c'en est un, mais peut-être d'un autre ordre, peut-être plus philosophique là pour le coup, que dans l'exercice du pouvoir tyrannique, c'est vraiment le terme qui a lieu à ce moment-là. Il faut quand même essayer de définir, Dorian Astor, vous le faites dans votre article, l'article qu'on peut retrouver, je le signale, dans la revue de France Culture Papier qui est parue il y a quelques jours, le numéro 21 de la revue France Culture, qui porte sur le vrai, le faux, le presque vrai, et on trouve l'article dont vous êtes l'auteur et à partir duquel nous parlons aujourd'hui. Essayons de définir, on parle des faits alternatifs, on a un peu tout mélangé au début en disant que c'est comme fake news et post-vérité. Ce sont des expressions qu'on entend beaucoup, on ne les définit pas. Est-ce que vous avez une définition de ce que serait une fake news, par exemple? Et en quel sens est-ce que l'invocation des faits alternatifs est une fake news?
Je partirais du plus général, au fond. Cette histoire de post-vérité, ça fait depuis le début des années 2000 qu'on en parle. Et au fond, lié à toutes les analyses et critiques autour de la postmodernité, etc. Bon, aux États-Unis. Alors, le fait alternatif, pardon, mais je pense que c'est faire beaucoup d'honneur à Madame Conway oui. d'en faire un concept. Comme nous disions au début, je pense qu'il y a d'abord chez elle une mauvaise expression. Parce que ce qu'elle a voulu faire, c'est au fond dire chacun sa version, même à la limite chacun sa vérité. Elle a voulu être relativiste. Et elle a dit une chose qui obligerait à penser une espèce de monde parallèle. Or, comme nous disions, ça n'est pas le cas. Une fake news, c'est ce qui vient d'abord. La fake news, c'est il y avait 15 millions de personnes à l'investiture de Trump. Ça, c'est une fausse information. Un fait alternatif, c'est ce qu'on avance au moment où une fake news continue à chercher à s'imposer une fois qu'elle a été checkée, vérifiée. Donc on n'est plus dans la logique de fausse information, vérification de l'information, démentie, confirmation, etc. Ce qui est la procédure la plus logique. Ensuite, entre les différents partis en présence, on peut contester les vérifications, on peut contester les contre-expertises, etc. Là non. Alternative fact est une espèce de mot magique qui vient, comment dire, neutraliser toute tentative de démenti. Au fond, il y a une chose que disait Comte Sponville dans un article de janvier dernier. C'est rare que je le cite.
Le philosophe André Comte Sponville, oui.
Oui, voilà. Là, il avait raison. Il disait, au fond, la post-vérité. Disons, ce n'est pas la possibilité du mensonge qui caractérise la post-vérité, c'est l'impossibilité de le dénoncer. C'est en ce sens que je parle de dérive, de tentative ou de dérive totalitaire, c'est-à-dire que ce genre de pratique de la part des dirigeants, de la part des puissants, est une manière de mettre à l'épreuve jusqu'à quel point le mensonge éhonté va passer jusqu'au point où il ne sera plus contesté. C'est pourquoi sa face sombre est le shut-up. C'est-à-dire que si on avait, et je pense que ça a été plus ou moins le cas, harcelé, j'allais dire emmerdé Trump avec ses histoires, ah oui, mais on a vérifié ceci, cela, etc., ça aurait fini par un acte coercitif. Et cela, ça arrive chaque fois que Trump refuse des journalistes, refuse de leur répondre ou leur ordonne de se rasseoir.
Vous dites que le mensonge dans ce cas, et peut-être ce qui caractérise la post-vérité, c'est qu'il est évident et éhonté. Mais est-ce que finalement, ce qui rassemble ces termes de fake news, de faits alternatifs et de post-vérité, ce n'est pas justement une certaine façon de mettre à mal la notion même de vérité ? En clair, est-ce que la discussion que nous avons aujourd'hui ne porte pas aussi sur la difficulté qu'il y a à établir une vérité objective, indiscutable, à partir de laquelle on pourrait mieux désigner les mensonges, les renvoyer à ceux qui les prononcent? C'est peut-être cela, ce qu'on appelle le symptôme de notre modernité, que caractérise sans doute maladroitement ou pompeusement l'expression de post-vérité. On est au-delà de la vérité, on ne peut plus la prouver.
Oui, alors, je suis d'accord avec vous, et c'est un bel effort de votre part d'élever le débat. Je ne parle pas d'une autre, mais de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les vérités, entre guillemets, ou les faits dont il est question, sont quand même des faits très plats, pas du tout...
Oui, c'est est-ce qu'il pleut ou pas ? Est-ce qu'il y a 15 millions ou 5 000 personnes ?
Voilà, c'est-à-dire que lorsque la philosophie ou la science ou la justice, c'est-à-dire vraiment des systèmes, des procédures d'élaboration de la vérité, se mettent en place, là, nous n'avons pas affaire au problème qui est au fond philosophique ou scientifique de la vérité, c'est peut-on atteindre la vérité par nos procédures ? Au fond, la grande rupture kantienne, c'était de dire, oui, il y a de la connaissance possible, mais nous ne connaissons qu'à l'intérieur des conditions subjectives qui nous permettent de connaître. Ce n'est pas un relativisme, et Kant croyait en la science, pensait la science et la connaissance possible, et il s'agissait d'analyser l'ensemble des structures, a priori, disait-il, qui permettaient de connaître. Et au fond, on parlait de Nietzsche. Nietzsche dit la même chose, sauf que Nietzsche refuse le caractère a priori, détaché de l'expérience, de ces instruments du connaître.
C'est pour ça que la référence à Nietzsche ne paraît pas, à premier abord, vous allez nous dire en quel sens au second abord il en va autrement, absurde. Dire que la vérité n'est pas accessible par nos moyens traditionnels de connaissance, que la vérité n'est peut-être jamais donnée. Finalement, Nietzsche, dans beaucoup de textes, même si ces textes souvent se contredisent, semble ne pas dire autre chose, Dorian Astor. Il ne faut jamais poser cette question à un Nietzschéen parce que la réponse est toujours « c'est plus compliqué que ça ». Je sais bien, reste que quand même, à la phrase « les faits n'existent pas, il n'y a pas des faits mais seulement des interprétations », il est difficile de voir comment ça ne s'applique pas finalement à cette notion même de perte de vérité.
Oui, alors non, je ne vais pas vous dire que c'est plus compliqué que ça, c'est que je pense que c'est plus simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même remettre à leur place, comme nous disions, les vérités dont il est question ici.
Voilà.
De savoir si l'être est, si l'histoire a un sens, une finalité, si les objets que nous décrivons comme tels existent vraiment en soi, en dehors de nous.
Ce sont des vraies questions.
Oui, bien sûr, ce sont des vraies questions, mais ça, c'est pas du tout les questions qui se posent dans le champ politique et médiatique aujourd'hui. Mmh. C'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que cette question de la vérité, ça fait quand même des millénaires que les philosophes et les scientifiques se la posent, et au fond, qu'on se pose aujourd'hui ces questions, qu'elles soient relancées par le perspectivisme nietzschéen, par le relativisme, par la postmodernité, tout ce qu'on veut, à l'intérieur même de ceux dont la vérité ou le problème de la vérité est l'objet, c'est-à-dire, encore une fois, la science, la philosophie, la justice, etc. Le champ à partir duquel on parle de fake news, de post-vérité, etc., c'est le champ qui oppose, et ça me paraît une toute autre question, c'est le champ qui oppose, articule et associe, parfois avec une lutte, parfois avec une complicité, la sphère politique et la sphère médiatique, pour le dire très vite, dont plus la sphère des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au fond, il y a là une circulation proliférante, affolée et affolante d'informations qui ne servent qu'à configurer et reconfigurer les positionnements politiques et idéologiques.
Alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en vous proposant d'écouter quelqu'un qui dit, je crois, la même chose que vous. Pour en finir avec Conway, de toute façon, le rapprochement avec Nietzsche ne tient pas dans la mesure où elle parle de faits alternatifs. Et la citation de Nietzsche Tambrandi consiste à dire qu'il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Donc s'il n'y a pas de faits, il n'y a pas non plus de faits alternatifs. On peut tout simplement le dire comme ça.
Oui, voilà, on peut dire comme ça.
Alors avançons encore, parce que le temps file, et je rappelle que vous êtes en duplex depuis Berlin. Profitons du temps qui nous reste pour continuer à explorer ensemble ces enjeux. Je vous propose d'écouter donc la voix de Gilles Deleuze, qui, dans une conférence à la FEMIS en mars 1987, propose une définition de l'information comme étant l'expression d'un système de contrôle, et ensuite une illustration qui tombe à merveille d'un événement qui a lieu quelque temps avant la conférence. Ben, je vous le laisse découvrir.
En un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. L'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on On ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle.
Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Alors, Tchernobyl, l'événement, l'explosion de Tchernobyl avait lieu en 1980. Vous venez d'entendre la présentatrice de la météo, Brigitte Simonetta, le 30 avril 1986 sur Antenne 2, qui affirme que grâce à l'anticyclone qui vient des Açores, eh bien, le nuage radioactif n'aura pas d'effet, les molécules ne vont pas se propager au-dessus de notre pays. Quelle bonne nouvelle, mais bien sûr, c'est la science météorologique n'est fiable qu'à 3 jours. Est-ce qu'on est là, Dorian Astor, dans un cas de fake news ou pas, dans la mesure où on peut quand même, si on définit un peu cette notion de fake news, avancer que celle-ci est toujours volontairement trompeuse.
Bien sûr, oui. Alors, avant toute chose, je voudrais dire que chacun dans leur genre, Deleuze et Madame Météo, sont là absolument extraordinaires. La météo, et je crois d'ailleurs que quelque part ailleurs, c'est un exemple que prend Deleuze. Quand Madame Météo dit « il pleuvra demain », ça veut déjà dire « couvrez-vous, prenez un parapluie, faites attention aux inondations, etc. Bon. » ce sont des recommandations. Lorsqu'on parle de contrôle, c'est que toujours une information, fût-elle vraie hein, ou factuelle, c'est ça la question. C'est-à-dire que comment les systèmes de communication trient-ils les nouvelles, les informations qui devront être communiquées. Voilà. C'est-à-dire que, au fond, ce que relève une fake news, c'est-à-dire une fausse information, n'est que la pointe extrême de l'iceberg d'un rapport à l'information qui est de toute façon hiérarchisé, traversé par des intérêts et des buts qui sont tout sauf neutres. On peut regarder le journal de 20 heures et voir dans quel ordre les informations sont données, combien de temps on passe sur une information, combien de temps sur l'autre, etc. Bon, partons du principe qu'aucune information ne soit fake dans ce journal de 20 heures. Nous avons déjà un dispositif de transmission qui est de part en part actif en lui-même comme système de mot d'ordre. Bon.
C'est une construction, une reconstruction.
Bien sûr, c'est une construction, c'est une reconstruction. Alors évidemment, si on revenait à ces questions plus philosophiques de ce qu'on appelle le constructivisme, qui a une longue histoire, mais on pense aujourd'hui à des gens comme Latour, Bruno Latour, il y avait eu cette célèbre controverse à propos de ce pharaon, j'ai oublié lequel, Toutankhamon peut-être, dont on avait découvert qu'il était mort de la tuberculose. Et Latour avait dit de manière un peu provocatrice, mais extrêmement intéressante, il avait dit non, à cette époque-là, la tuberculose n'existait pas. Parce que la tuberculose a été découverte suivant des procédures scientifiques, a été diffusée dans le monde, enfin dans les médias de l'époque, en tant que telle, comme construction. Alors ça ne veut pas dire que Toutankhamon n'est jamais mort et qu'il n'est pas mort d'une maladie, et il est mort de quelque chose qu'on appellera une tuberculose. C'est pas du relativisme, c'est simplement une espèce d'extrême prudence dans la méthode qui nous oblige toujours à questionner ce qui ne l'est pas. Le problème au fond de Nietzsche, c'est de, dit-il, non pas de détruire la vérité, de dire il n'y a pas de vérité. Ce par quoi il commence, c'est de dire mais pourquoi désirerions-nous la vérité plutôt que le mensonge? Pourquoi cette pulsion de vérité? Et si le désir, la passion de connaître est une passion, et c'est en ce sens qu'il n'est plus qu'ancien, est un instinct, est une expression, dirait Nietzsche, de la volonté de puissance, eh bien les régimes de vérité et les systèmes de la connaissance qui s'y rattachent sont de part en part portés par ces pulsions de contrôle, d'appropriation, etc.
Reste que pour pouvoir identifier un mensonge, et il est nécessaire de le faire, l'exemple avec lequel nous sommes partis le montre, et surtout en politique, nous sommes quand même, nous pouvons nous féliciter de pouvoir déceler les mensonges, en être conscients, il faut pouvoir les distinguer de ce qu'est la vérité. C'est-à-dire que même si la notion même de vérité correspond plus à une pulsion qu'à un état de fait, même si cette notion-là est déconstruite ou finalement associée à une forme d'illusion ou d'apparence, c'est parce que nous croyons encore à la vérité que nous pouvons identifier des mensonges.
Bien sûr. C'est ce que Nietzsche appellerait la probité. La question, on ne peut évidemment pas se permettre n'importe quoi. Il faut voir une chose, c'est que, par exemple, dans ce petit texte de Nietzsche qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral », il utilise « mensonge » en un sens étonnant, puisqu'au fond, il parle de mensonge inconscient, de mensonge produit par les structures du langage elles-mêmes et au fond par des procédures inconscientes, des corps du vivant. Donc là, en réalité, il se trouve encore d'une certaine manière dans une problématique kantienne ou post-kantienne. À quoi pouvons-nous atteindre ? Quand on parle de mensonge, on est plutôt dans un système du dire vrai ou ne pas dire vrai. Quelle que soit au fond la valeur, la définition, les procédures par lesquelles on se donne un concept et une pratique de la vérité, le mensonge est lié à sa profération. Donc la problématique de la vérité en elle-même n'est pas engagée dans la question du mensonge. Si je sais que 3 et 3 font 6 et que je vous dis droit dans les yeux 3 et 3 font 9, la seule question qui se pose, soit je fais une blague pour vous faire rire, soit je vais vous hypnotiser jusqu'à ce que vous répétiez après moi 3 et 3 font 9.
Ce que vous dites, Dorian Astor, c'est que pour pouvoir mentir, pour que mensonge est lié, il faut avoir une notion de la vérité.
Oui, c'est ça. Au fond, la question du mensonge est toujours liée au fond à l'écart qu'il y a entre ce qu'on sait et ce qu'on dit. Ça n'est que cela. Interroger nos croyances, nos préjugés, interroger même l'idéologie, c'est-à-dire de tout ce système d'idées qui forment écran, qui forment illusion. On parle là, et c'est en ce sens qu'on est placé dans une réflexion critique, on se pose au fond la question des illusions, c'est-à-dire de ce qu'on tient de ce qu'on tient pour acquis, qu'on n'a pas interrogé et qu'il y a de fortes chances que ces choses-là nous trompent. Le mensonge, malheureusement, c'est d'une platitude terrible, c'est-à-dire c'est un écart entre ce qu'on sait ensuite, peu importe qu'on ait raison, qu'on croit le savoir ou que, qu'on en ait les preuves, etc., entre ce qu'on sait et ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand je dis « ce n'est pas moi qui ai mangé les bonbons je mens, je veux m'en tirer, en même temps je sais que j'ai mangé les bonbons et point, les enfants font ça très bien ». Donc cette question du mensonge n'est pas est en fait désarticulée du problème de la vérité.
Est-ce qu'on peut, Dorian Astor, et il faut qu'on évoque ce point car le temps passe, est-ce qu'on pourrait définir le rôle de la philosophie au sein de la société, y compris dans le domaine politique, mais pas seulement, comme étant justement le fait de pointer cette désarticulation-là, cette distance prise à l'égard d'une certaine notion de la vérité qui permet quand même de pointer les mensonges? Je vous pose la question parce qu'on a commencé l'émission en disant il est absurde d'essayer d'expliquer Trump en utilisant Nietzsche. On n'est pas en train de faire la même chose, on est en train d'essayer de montrer en quoi c'est plus subtil, mais puisque nous avons cette discussion, enfin que je l'ai avec vous, philosophe Dorian Astor, c'est donc bien que le philosophe que vous êtes a un rôle à jouer quand même pour analyser ce qui est en train de se passer.
Oui, au fond, ce dont il faut repartir sur ces histoires de Nietzsche et Trump, comme on a fait par ailleurs dans un certain nombre d'articles, Derrida et Trump, si on a Trump, c'est la faute à Derrida, des constructions, etc. Bon. C'est que, au fond, la philosophie est, dans ces cas-là, utilisée pour confirmer, redoubler, au fond décorer les états de fait. Évidemment, il faut articuler Nietzsche et Trump, ou Platon et Trump, Rousseau, enfin on peut aller chercher les grands philosophes politiques, mais il faut qu'un combat, ou disons qu'une critique s'engage. C'est-à-dire que si Trump sert juste à nous dire « Ah ben voyez, en fait, Nietzsche avait raison, ou alors Nietzsche a gagné, ou alors Trump est nietzschéen », ça ne nous dit rien. Comme quand on essaye aujourd'hui de savoir en quoi Macron est ricœurien ou machiavélien ou que sais-je. Enfin, tout ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr, Machiavel, bien sûr, Ricœur, bien sûr, Nietzsche ou Derrida.
Mais ça n'aide ni à mieux comprendre la politique et ni à mieux comprendre à quoi sert la philosophie, en fait. C'est ça que vous dites.
Ce que je dis, c'est que la philosophie est l'ennemi acharné des états de fait. Et là, quand je dis état de fait, c'est-à-dire des choses comme elles vont. C'est-à-dire qu'il y a des philosophies qui peuvent être très, très marquées par la nécessité. C'est-à-dire que beaucoup de philosophies diraient que bon, le monde va comme ça, mais il ne peut pas en être autrement. Mais ce qui, en tout cas, est commun, me semble-t-il, à toute philosophie, c'est de détruire l'évidence qui fait qu'on dirait oui et amen. Hein, c'est le oui de l'âne, dirait Nietzsche, et de cesser d'interroger ce qui se donne pour acquis, pour factuel.
Au fond, le travail du philosophe consisterait à explorer l'intervalle qui sépare le oui du non, ou le noir du blanc. Il y a ces oppositions frontales et bien commodes pour tenter d'expliquer les choses, et il y a tout ce qu'on pourrait appeler le sens de la nuance qui se déploie entre les deux et dans lequel s'engouffre le philosophe dans le meilleur des cas.
Oui, oui, la méfiance, je crois. Je pense que
la méfiance plus que la nuance.
Il me semble que c'est lié, mais il me semble que c'est lié. Mais en tout cas, je crois que tout se joue autour de la question de la croyance. C'est-à-dire que le phénomène humain du croire est plus mystérieux et plus complexe encore que celui du savoir. Parce qu'au fond, le savoir est un mode réussi de croyance.
C'est ce que disait Deleuze dans l'archive qu'on a entendu. On nous dit ce que nous sommes censés croire ou faire comme si l'on croyait dans l'information, dit-il.
Voilà.
C'est-à-dire
et
à quel point tout se ramène à de la croyance.
Voilà. Et il ajoute surtout, au moins, de se comporter réalité comme si nous croyons. Mmh. Et là, je pense que c'est exactement ce dont il est question. Au fond, l'arrogance, l'insolence qui est épouvantable de l'administration Trump face aux journalistes, par exemple, ou de certains journalistes face à ceux qui les écoutent, ou etc. Toujours ce moment où on ne vous demande plus de croire, mais de faire, de vous comporter comme si vous croyiez, ce qui, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, est à peu près le meilleur signe d'un totalitarisme.
Un dernier mot, Dorian Astor, dans votre article qu'on trouve, hein, je le rappelle, dans la revue de France Culture Papier, qui est paru il y a quelques jours, vous dites « Nous n'entrons pas dans une ère de post-vérité, nous entrons dans l'ère de la post-interprétation ». Quelle différence ?
C'est que précisément l'interprétation, alors à la fois implique des procédures, des méthodes. Nous parlions de Nietzsche, la méthode généalogique ou le modèle philologique. En tout cas, l'interprétation oblige à se demander quelles sont nos procédures de lecture d'un texte. Hein, si la nature, si le réel est un texte, c'est-à-dire au fond un chiffre à déchiffrer, un code à décoder, et ça c'est un des modèles et de la pensée et de la science. La question est toujours de savoir si nous pouvons décoder, déchiffrer ce qui a été codé et chiffré d'une certaine manière. En revanche, à partir du moment où on oublie que le réel est encodé par un dieu, dirait Leibniz, les scientifiques savent bien que nos réels sont encodés. À partir du moment où on oublie que ce à quoi nous sommes confrontés, ce dans quoi nous sommes, le réel ou le monde, est quelque chose qui est encodé et que nous sommes des machines à décoder, la question de la vérité se pose, et de la connaissance se pose toujours autour de la question du fait de savoir si on a les bons codes ou pas, si nos codes, nos décodages sont adaptés aux codes. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette ère de post-interprétation, c'est qu'on veut nous faire croire que nous sommes, on veut nous faire croire que rien n'est codé, que tout est ouvert, et que nous n'avons plus nous-mêmes à déchiffrer parce que le monde a été déchiffré par ceux qui gouvernent, par ceux qui informent, par ceux qui décident. Donc c'est ça cette société de contrôle. On tente, mais ça je finirai là-dessus. Je crois que on n'y arrive pas, mais on tente de nous déposséder de nos activités de décodage. Or, il se trouve que nous décodons de plus en plus, précisément parce que plus il y a de signes et plus nous sommes sollicités. Et du coup, il me semble que le plus grand danger de ce qu'on veut nous faire avaler, au fond, nous comporter comme si nous croyons, Le grand danger de ça, c'est le retrait de la combativité.
Merci beaucoup Dorian Astor, d'être venu décoder en notre compagnie. Trump, les fake news, toutes ces expressions assez compliquées qui sont plus claires maintenant, et d'avoir déplié les enjeux philosophiques de ces questions. Merci d'avoir été avec nous depuis Berlin.
Merci Adèle.
Lorsque tu me regardes, je le vois bien, c'est vraiment vrai que ton regard s'en va et passe à travers moi pour se perdre au-delà de moi. Et quand je te demande sans cesse à quoi tu songes, crois-tu que je ne sens pas que tu me réponds des mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourriffer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Quand tu m'embrasses, moi je me dis mais oui, c'est pourtant vrai, tant qu'il m'embrasse, moi c'est toujours ça le prix, puisque tout passe et que tout lasse. Et quand tu me souris d'un air distrait, c'est vrai, crois-tu que je ne vois pas que tu penses à tout sauf à moi? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu mentiras, c'est que tu tiens à moi, comme moi je tiens à toi, bien malgré toi. Mais tu ne le sais pas, moi je le sais, c'est pourtant vrai que toi tu es comme ça. Car moi je te connais, et toi tu ne te connais pas. Je ne vis que pour toi, tu ne vis que par toi. Et pourtant toi sans moi, ça ne marcherait pas, tu ne t'en doutes pas. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu me tromperas et que tu reviendras, c'est que tu ne pourras pas te passer de moi. J'aime ta duplicité, là, c'est pourtant vrai. Crois-tu que je n'entends pas quand tu m'appelles, moi, de toutes sortes de nouveaux prénoms? Si tu me quittes un jour, ne t'en fais pas, c'est vrai. Moi, je disparaîtrai, tu n'entendras plus parler de moi. Je regretterai tes mensonges, je regretterai tes mensonges. Continue de mentir, non, ne t'en prive pas, car moi je ne peux pas vivre sans toi, car moi je ne peux pas vivre sans toi.
Et c'est la fin de cette semaine sur l'opinion, les fake news et Donald Trump. C'était donc avec Dorian Astor aujourd'hui en duplex depuis Berlin. Je renvoie à l'article que Dorian Astor a écrit, qui était originellement paru dans la revue Diacritique et qui est reproduit dans la revue de France Culture Papier, le numéro 21, qui propose un dossier sur le thème du faux, du vrai et du presque vrai. C'est à cette occasion donc que cette émission a pu avoir lieu. Je vous recommande chaudement la lecture de cet article très précis et très documenté, ainsi que l'article qui était paru dans Philosophie Magazine, magazine de Michel Elchaninov, auquel répondait Dorian Astor. Philosophie Magazine, dont nous sommes partenaires, hein, le numéro du mois de juin porte toujours sur quelle part d'enfance gardons-nous, mais Philosophie Magazine propose aussi un hors-série cet été sur le thème « Marcher avec les philosophes ». La journée spéciale pour le livre continue sur France Culture, mais tout de suite, il est temps de retrouver les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître et aujourd'hui, c'est un livre du philosophe Thierry Hoquet.
Et oui, Thierry Hoquet, que vous receviez en 2015 à l'occasion de la parution de son conte philosophique intitulé « Sexus nullus ou l'égalité ». Eh bien, voici donc pour cette dernière recommandation de la saison et pour l'été, la suite de ce conte. Et il n'est plus question d'égalité, mais de liberté. C'est « Déicide ou la liberté ». Coup de théâtre au soir du second tour de la présidentielle. Ulysse Rivneuve, le candidat qui promettait de ne plus mentionner le sexe à l'état civil, disparaît. Dans les jours qui suivent, un mystérieux front œcuménique de salut revendique son enlèvement. Rivneuve explique les ravisseurs attentés à la loi divine qui soumet la femme à l'homme. C'est l'émoi au pays de la laïcité. Face à la menace terroriste, l'état d'urgence est décrété, tandis que les religieux de tous bords se confondent en protestations de bonté, d'amour et de tolérance. Mais de quel droit la foi, conviction intime, déborde-t-elle dans l'espace public sous cette forme toxique et contagieuse nommée religion ? Tel est le résumé de cette suite que l'on peut découvrir en 4e de couverture et telle est bien la question qui en sous-tend toutes les péripéties, la manière dont les croyances s'infiltrent dans l'espace public, la manière dont elles reproduisent les inégalités, la manière dont elles régissent donc les esprits et l'opinion. Ce qui résonne en plus parfaitement avec cette semaine des chemins et bien sûr avec notre époque. Vous l'avez entendu, présidentielle, état d'urgence, inégalité entre les hommes et les femmes et sans oublier évidemment laïcité. Il faut donc saluer cette mise en forme littéraire de questions, d'enjeux, de réflexions qui nous familiarisent autrement avec cette situation que l'on connaît pourtant déjà et surtout qui nous fait entendre tous les points de vue, les remet en perspective. Et on suivra donc avec plaisir et attention ces aventures suspendues au dénouement de l'enlèvement du héros Ulysse Rivneuve et on se surprendra même à aimer découvrir les documents créés ici, des manifestes, des missives, des articles de blog des uns et des autres et qui révèlent autant de points de vue d'un tel problème.
Merci Géraldine, vous nous rappelez le titre du livre ?
C'est « Déicide ou la liberté », c'est de Thierry Hoquet et c'est chez X'.
Merci Géraldine, les chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Je recevrai l'historien de l'art Yann Blanc pour une émission sur Van Gogh, la dernière émission de la saison. Rendez-vous à 10h donc, mais d'ici là, pour réécouter cette émission du jour, ainsi que la chronique de Géraldine Mosna-Savoie, rendez-vous en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Vous pouvez les réécouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter, nous attendons vos remarques et commentaires. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Jean-Guy Lermège et Yannick Magnien à la prise de son, Livia Garrigue, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup et Georges Clès qui a lu les textes pour nous cette semaine.